La revue de presse internationale d'Ilan Malka. Bonjour Ilan.
Bonjour Julie.
Alors dans la presse étrangère ce matin...
Oui, la presse internationale parle beaucoup du Cambodge où se sont déroulées hier des élections législatives très controversées. Le parti du Premier ministre Hun Sen revendique la victoire avec 80% des suffrages. Des résultats définitifs devraient être officialisés le 15 août. L'opposition cambodgienne parle de mort de la démocratie. On sait effectivement que la principale force d'opposition a été dissoute en 2017. Et la presse donc, comment réagit-elle? Alors par exemple, le Nikkei Asian Review, publication basée à Tokyo, revient sur les conditions dans lesquelles le scrutin s'est déroulé. Le parti au pouvoir, écrit Yukako Ono, avait distribué de l'argent comptant et d'autres incitatifs pour motiver les électeurs à se rendre aux urnes. Alors certes, l'intimidation aurait pu entraîner une augmentation du nombre de bulletins blancs ou nuls, mais selon Human Rights Watch, cité par cet article, les gens qui n'avaient pas de l'encre sur les doigts craignaient des représailles pouvant nuire à leur famille et à leur vie. Ils ont donc dû prendre une décision pragmatique. Dans le journal thaïlandais Asia Times, on peut lire ceci. Hun Sen a tout mis en œuvre pour assurer la victoire du scrutin. Les médias indépendants ont été fermés ou achetés par des alliés du parti. Les médias de la société civile ont été réduits au silence et les électeurs ont été harcelés par les organisateurs. On peut lire malgré tout dans cet article la réaction de Noan, blogueur politique. « Cela me rend tellement désespéré, comme si j'étais tout seul dans une forêt et que je ne savais pas où aller. Je ne sais pas si je peux appeler ça une élection », dit-il.
Autre scrutin qui est analysé par la presse internationale, Ilan Malka, c'est au Zimbabwe.
Oui, élection présidentielle qui se déroule aujourd'hui. Alors dans le quotidien anglais The Guardian, on peut lire ceci. « Quel que soit le résultat de l'élection, la page Robert Mugabe est tournée », c'est ce qu'affirme donc l'analyste zimbabwéen Wilf Mbanga. Alors, il s'intéresse, les deux candidats, il les détaille. Donc, d'un côté, il y a Emmerson Mnangagwa, président depuis 8 mois. Il a, peut-on lire, donné des signes clairs d'une rupture nette avec le passé. Il courtise activement l'Occident. Il pratique la paix au lieu de la violence. Il évite la corruption. Il rencontre des chefs d'entreprise et il se projette en général comme réformiste. Et puis, alors, de l'autre côté, il y a l'opposant, Nelson Chamisa, qui est décrit lui aussi comme pro-entreprise et anti-corruption, avec peut-être un petit avantage. Ses références en matière de démocratie et de droits de l'homme sont bien établies, peut-on lire, alors que celles du parti au pouvoir sont une source constante de préoccupation. Cette élection au Zimbabwe intéresse également le New York Times. Pour relancer l'économie, il serait utile que le gouvernement puisse mener des élections équitables, note le journal américain. Alors est-ce le cas? Bon, il y a des éléments positifs et d'autres moins positifs. Ainsi, note le New York Times, pour la première fois, les partis d'opposition ont été autorisés à faire campagne dans des zones qui leur étaient auparavant interdites. Mais le parti au pouvoir a continué d'exploiter son emprise sur les forces de sécurité, les médias d'État et d'autres ressources pour favoriser ses candidats. Donc en résumé, c'est encourageant, mais peut quand même mieux faire. Dans le quotidien suisse Le Temps, on peut d'ailleurs lire cette Zimbabwéenne qui dit ceci « Nous sommes très loin de la situation de 2008 ». Mais ce n'est pas parce qu'il y a moins de violence que les élections seront justes.
La presse israélienne, Ilan Malka, parle bien sûr ce matin de la libération de la palestinienne Ahed Tamimi.
Oui, l'affaire avait fait beaucoup de bruit. Ahed Tamimi avait été placée 8 mois en détention après avoir giflé un militaire israélien. Elle a été libérée hier. Alors, les réactions dans la presse israélienne à cette libération sont assez variées, assez différentes. Dans le Jérusalem Post, par exemple, l'avocat Arnold Roth regrette l'héroïsation d'Ahed Tamimi. Alors, il ne justifie pas non plus la peine à laquelle elle a été condamnée, mais, dit-il, son clan a fêté, par exemple, des attentats meurtrier en Israël et elle a été une participante enthousiaste de ces célébrations. Elle a également appelé à la violence dans des vidéos, écrit-il. Analyse très différente dans le quotidien Haaretz, signé de l'avocate israélienne Gabi Lasky, qui avait justement défendu Ahed Tamimi. Cette courageuse jeune fille n'a pas cédé un seul instant, écrit-elle. Elle a réussi à illustrer l'injustice de l'occupation par son arrestation et son emprisonnement. Maintenant, l'opposition israélienne doit agir. Fin de citation.
Et puis on revient en Europe, Ilan Malka, pour la fin de votre revue.
Oui, avec la presse israélienne qui parle beaucoup de cette rencontre qui a lieu aujourd'hui. Le Premier ministre italien Giuseppe Conte est donc reçu aujourd'hui à la Maison Blanche par le président américain Donald Trump. Le quotidien Il Giornale estime en substance que les deux hommes ont quand même pas mal de choses en commun. Trump a été immédiatement satisfait des positions exprimées par le gouvernement composé des 5 étoiles et de la Ligue, c'est ce qu'écrit Lorenzo Vita. Et cela donne au gouvernement italien un rôle de médiation entre les États-Unis et l'Union européenne. Plus précisément, de quoi les deux hommes vont-ils parler? Alors, il sera question de plusieurs dossiers internationaux, c'est ce qu'affirme le quotidien La Stampa. Vous ne pouvez pas nous laisser seuls en Afghanistan, dira le président américain. Il veillera à ce que le gouvernement italien ne retire pas la totalité du quota de Kaboul. En retour, Trump devrait fournir un soutien à l'Italie sur le front de la Libye et de l'Afrique du Nord. C'est ce qu'écrit donc Ilario Lombardo dans la Stampa.
Merci Ilan Malka. Merci beaucoup. Bonne journée.
Et à demain.